Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Actualitime, l'émission de débat des lycéens sur l'actualité. Je suis Jeanne et je vais aujourd'hui remplacer votre animateur préféré, Thibaut. En cette période estivale, nous allons donc parler des différents pays du monde, de leurs particularités et bien sûr de leur culture. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes pays préférés, l'Australie. Pour recontextualiser, rapidement, l'Australie fait partie du Commonwealth et une monarchie constitutionnelle. Son chef d'État
officiel... C'est quoi une monarchie constitutionnelle déjà ?
En gros, c'est un parlement. Et en fait, le parlement dirige le pays et la reine dirige également le pays, en fait.
D'accord. Donc, c'est pas un président.
Donc, c'est pas un président, c'est un premier ministre.
Mais déjà, ça, je savais pas.
Voilà. En fait, le premier ministre a le rôle du président, en gros.
D'accord.
C'est bon ?
Je pense.
Du coup, son chef d'État officiel, c'est Elisabeth II, représentée par le gouverneur général Peter Cosgrove, même si l'homme qui dirige réellement le pays, c'est le Premier ministre Scott Morrison.
D'accord.
En bref, sa capitale, c'est Canberra, même si les villes principales du pays, c'est plutôt Sydney, Melbourne ou Brisbane. Sa langue officielle, c'est l'anglais, sa superficie, c'est environ 7 millions de kilomètres carrés, et sa fête nationale, c'est le 26 janvier, jour de la proclamation de la souveraineté britannique. L'Australie, c'est un pays riche avec une espérance de vie d'environ 80 ans et un taux d'alphabétisation de 99%.
99% toi.
Ouais, c'est énorme. Bah, vu que c'est un pays riche, en fait, tout le monde va à l'école, donc...
Trop bien.
Tout le monde...
Ok. T'es en train de me dire, tous les pays riches, ils ont des taux d'alphabétisation géniaux. Bon, nickel. Non, mais on peut voir ça comme ça, mais...
Bah, c'est un peu ça, hein.
On peut voir ça
bah,
comme ça,
les pays d'Afrique, ils ont pas un bon taux d'alphabétisation, vu qu'ils sont moins riches, du coup, il y a moins d'écoles, quoi.
Bah après, je pense que tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac en disant t'as des sous, donc il y a de l'alphabétisation.
Oui, mais ça aide quand même à avoir des sous, ça crée des écoles.
C'est clair, je suis d'accord. Non, mais je m'y attendais pas à ces chiffres.
C'est également un pays très ouvert, c'est un pays pluriculturel et qui est très sensible à l'environnement. L'Australie,
c'est bien une démarche écologique comme ça.
Ouais, ouais, c'est bien. Bah, c'est tous ces pays comme ça, l'Australie, le Canada, enfin, c'est vraiment des pays qui sont intéressés.
Pays riches, mais plus intelligents peut-être que certains.
Bah,
pays.
Ça dépend, parce que les États-Unis, par exemple,
voilà.
Sont pas très.
C'est pas la même façon
moi,
de réfléchir.
Suis allé en Australie, ils recyclent tout. Hein.
Ouais.
Ouais.
C'est même des maisons recyclées.
Ouais,
t'es allé
cette année en Australie en plus.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Et bien.
Ouais, franchement, c'est trop bien l'Australie pour ça.
D'accord.
Hyper écologique, ouais.
Ouais. Du coup, l'Australie, c'est une histoire plutôt riche. Au départ, donc, la terre était peuplée par ce qu'on appelle les aborigènes. Donc, en fait, c'est ceux qui étaient là au départ, quoi.
D'accord.
Ils étaient environ 1 million, répartis en plus de 500 clans différents sur tout le territoire. Vraiment, ils étaient partout. Et cette terre, elle a été découverte par les Européens, mais elle a été colonisée qu'en 1770 par le capitaine anglais James Cook.
Quand tu dis les Européens, c'est qui ?
Je crois que d'abord, c'était les Hollandais, si je ne dis pas de bêtises.
D'accord.
Mais en fait, ils s'en servaient, mais ils ne l'ont jamais colonisée, en fait. Ils savaient qu'elle était là, ils savaient qu'elle existait, mais ils n'ont jamais envoyé des hommes dessus.
Donc, c'est pas pour ça qu'ils ne savent pas, comment dire. C'est l'Angleterre
qui
en
fait, le capitaine, il est arrivé, il a dit bah, c'est anglais parce que c'est les premiers à l'avoir découvert. Donc, il a décrété que c'était anglais. Il a mis le drapeau anglais. Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment fait ça, mais voilà.
Il a dit c'est anglais et puis c'est fini.
Et puis voilà. Et puis, il l'a cartographié, puis c'était repéré comme anglais. Donc, du coup, au début de la colonisation, l'Australie, ça servait de prison, en fait, à l'Angleterre. Donc, entre 1788 et 1668. Il y a eu plus de 160 000 femmes et hommes qui ont été déportés, donc c'est énorme.
Quand tu dis prison, c'était vraiment
en fait,
la prison de l'Angleterre.
Les prisonniers anglais, certains étaient envoyés.
D'exil.
Ouais, voilà, c'était une terre d'exil pour les prisonniers. Certains étaient envoyés en Australie, et donc ils étaient emprisonnés en Australie en fait.
Et c'est le bout en plus.
Et puis les conditions, elles étaient dures, ce qui faisait chaud. Enfin, c'était
oui,
pas.
Oui, puis oui, c'était à l'époque. Oui.
Ouais, c'était pas la prison idéale, quoi.
D'accord.
Et du coup, l'arrêt de la prison, ça signifie aussi l'arrivée de nouveaux colons libres dès le début des années 1790. Du coup, cette colonisation, ça fut vraiment dévastatrice pour les peuples aborigènes. On leur a pris leurs terres, on a apporté des maladies mortelles dont ils n'étaient pas immunisés. Et surtout, les traditions et les pratiques ancestrales, elles ont eu du mal à perdurer.
D'accord. Mais aujourd'hui, on a encore des aborigènes ou pas ? Enfin, je sais pas si
en fait, on a encore des aborigènes, mais ils sont intégrés à la population maintenant, en fait.
Ouais.
Mais on a pas mal de musées pour les aborigènes. Enfin, maintenant, on s'en souvient, en fait, mais à un moment, les aborigènes, ils étaient
mais
pas
c'est
trop...
C'est de faire revivre leur culture. Mais
ouais, voilà, c'est ça, reste, en fait. On explique leur culture. Je sais pas si t'as eu pareil, toi, mais je suis allée dans un parc où on nous expliquait comment ils vivaient. Enfin,
d'accord.
Voilà.
Super intéressant.
Moi, là où j'étais, il n'y avait pas trop de culture aborigène.
Ouais,
c'était pas trop. Un petit peu, mais pas.
Après, toi, t'étais moins dans la ville.
J'étais en campagne.
Ouais. Ouais, voilà.
D'accord.
Du coup, ces populations aborigènes, elles ont vraiment été mises longtemps à l'écart et elles ont été mal considérées, notamment par l'État. Et c'est qu'en 1967 seulement que les aborigènes, ils ont obtenu le statut de citoyen australien. Avant, ils n'étaient pas considérés comme australiens.
Ouais. Oui, donc c'était des sous-hommes, quoi.
C'était, ouais, voilà, c'était un peu...
Un petit peu comme en Amérique.
Ouais, un peu comme en Amérique avec les Noirs, c'est un peu ça, tu vois. Et en 1851, de l'or fut découvert dans les États de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, en Australie. Donc du coup, c'était la ruée vers l'or.
Forcément.
Bah ouais, forcément. Et des milliers de personnes sont arrivées en espérant trouver de l'or et donc devenir riches, quoi. Cependant, en Victoria, le gouvernement, il a imposé des permis d'exploitation et ça a entraîné des révoltes, et notamment la révolte d'Eureka en 1854.
Quand tu dis permis d'exploitation, c'est qu'ils se permettaient d'exploiter
en fait, ouais, ils devaient avoir des permis pour pouvoir chercher de l'or, creuser dans les mines et trouver de l'or.
Ouais, la petite ville où j'étais, Castlemaine, dans les années 1850, il y avait trois fois plus d'habitants, genre 100 000 habitants, avec peu d'eau disponible, et il y avait énormément de mines d'or. On voit énormément de traces des mines d'or.
Ils sont tous venus pour les mines
partout, ouais. On voit des anciens puits, des anciens débris d'exploitation minière et tout. C'est intéressant.
Dingue. Et t'as visité des musées ou des trucs comme ça là-bas ?
Non, mais quand on se bat dans la nature, il y a tout déjà.
Ah ouais, dans la nature.
Dans la nature, ouais.
Enfin, trop bien.
Eh bien, c'est impressionnant.
Et du coup, donc la révolte. Elle a été perdue par les mineurs, mais ça leur a permis d'obtenir plus de droits, comme le droit de vote ou de siéger au Parlement. Et du coup, cette révolte, c'est aujourd'hui considérée comme, par les historiens comme la naissance de la démocratie australienne. D'accord. Donc c'est hyper important, quoi, pour les Australiens. Mmh. L'Australie, elle devient une vraie nation que le 1er janvier 1901. Donc à cette date, les 6 États australiens adoptent une constitution unique. Et du coup, l'Australie devient membre d'une Commonwealth en même temps. Et en fait, c'est l'ensemble des anciennes colonies britanniques qui ont été décolonalisées. Et dont la reine est aujourd'hui encore la chef d'État officielle.
D'accord. Donc, ouais, d'accord. C'est vraiment quand même gouverné par l'Angleterre. Enfin,
En fait, officiellement, c'est la reine qui est la chef de l'Australie.
Mais au niveau.
Mais c'est plus.
Pratique.
Ouais. Historique. En vrai, c'est pas elle qui dirige, quoi. Enfin, elle dirige. Elle a des poids sur des choses. Mais c'est pas elle qui prend les réformes, c'est vraiment le Premier ministre qui a son rôle là. D'accord. Quoi.
Qui a plus d'importance.
Voilà. Donc maintenant, on va plus parler de la culture australienne, parce que l'histoire, bon, c'est bien, mais voilà.
L'histoire d'abord, qui fait partie intégrante de la culture, mais oui. Quel aspect de la culture, justement, tu...
Le reste de la culture, autre que l'histoire. D'accord. La vie de tous les jours, quoi.
D'accord.
Oui, okay. Oui, ce qui caractérise l'Australie dans ses habitants et dans sa ville. Et...
Exactement.
D'accord. Au jour d'aujourd'hui, forcément. J'ai fait un petit pléonasme, mais c'est pas grave.
Yes, aujourd'hui, blague de français.
Excusez-moi.
Donc d'abord, au niveau scolaire, donc en Australie, c'est pas du tout pareil qu'en France, en fait. C'est plus un système anglo-saxon. Donc les cours commencent vers 8-9 heures, mais ça finit plutôt vers 15 heures, quelque chose comme ça. Et les élèves sortent beaucoup en ville, ils vont faire du sport, ils vont dans des assos et tout.
C'est bien ça.
Et alors, moi,
j'suis d'accord.
Ouais, c'est carrément bien.
Ça fait rêver quand même, hein.
Ouais.
Quand on voit le... principe autre de la France, quand on finit à 18h parce qu'on a des options pour le bac.
Oh, yes, la musique.
Oui.
Ah bon. Ouais, franchement, non, c'est trop
choix, c'est notre choix.
Ouais, mais ils ont pas beaucoup de cours, ils sont vraiment très libres à l'école.
Ouais.
C'est en fait, un peu bizarre leur système.
Ils choisissent leurs cours, en fait.
C'est ça.
Ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Mais du coup, leur niveau est beaucoup moins bon que le nôtre. Par exemple, moi, ils prenaient français en LV2, du coup. Non, LV1, français en LV1.
Mm-hmm.
Et leur niveau était pas bon du tout, par exemple, par rapport à notre niveau en anglais.
Oui, parce que nous, prendre une LV1 ou une LV2, ça...
Moi, LV1, c'est anglais. On est quand même fort en anglais par rapport à eux, quoi.
Ouais.
Mais ils ont que 5 matières différentes, là où j'étais. Ouais.
En fait, ils choisissent, à partir d'une certaine... Je ne sais plus laquelle classe. Ils choisissent vraiment ce qu'ils veulent faire, en fait.
Mm-hmm.
Et ils choisissent donc 5 matières. Et ils font ces 5 matières, mais ils ne font rien d'autre, en fait.
D'accord.
Donc, s'ils choisissent de ne plus faire de maths, ils ne vont plus faire de maths, en fait.
Ouais. Alors, je voulais rebondir sur les langues. Le fait qu'ils étaient un peu moins bons en LV1, tu sais, français... Ouais. En général, l'apprentissage d'une langue, ça se fait surtout par nécessité. Et par exemple, la plupart des gens en France qui apprennent l'anglais, bon, il y en a une bonne partie qui sont pas très bons, mais c'est parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'utilité. Et en général, les petits pays qui parlent une langue qui est très très peu parlée dans le monde, on va prendre par exemple les Pays-Bas qui parlent le néerlandais, ils auront plus tendance à bien maîtriser l'anglais parce que c'est une forme de nécessité en fait, ouais, pour eux de
parler. Ils vont être capables de parler beaucoup plus de langues différentes que nous. Ils vont être, comment dire, une aptitude à passer du néerlandais au français, à l'anglais. Enfin, ils ont, par rapport à nous en tout cas, ils sont capables de savoir trois, enfin, entre deux et quatre langues couramment. Et vraiment, enfin, moi, pour avoir déjà vu ce genre de gens, comme tu dis, des pays qui parlent une langue moins parlée dans le monde, c'est impressionnant. Ils passent. Pour le peu qu'ils aient des amis belges, bah, ils vont parler belge, après néerlandais. Enfin, c'est une capacité très impressionnante par rapport à nous, en tout cas.
C'est ça. Et les pays touristiques aussi, techniquement, parlent quand même beaucoup plus l'anglais. L'anglais étant une langue internationalement reconnue, et même reconnue comme la langue internationale, surtout pour tout ce qui est commerce, etc. C'est normal qu'un Australien soit moins bon en français qu'un Français soit bon en anglais.
Oui, sûr, ils n'ont pas besoin du français, en fait, les Australiens.
C'est ça, c'est ça. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple du Japon. J'y ai séjourné un petit peu. Le japonais est forcément très parlé au Japon et c'est une langue qui est très, comment dire, présente dans tout ce qui est culturel. Ils ne sont pas aussi imprégnés que, par exemple, des Néerlandais, de la culture américaine et de la culture anglaise, on va dire, en tout cas, dans cette langue. Et donc, ils ont pas mal de mal avec les langues étrangères. C'est un pays insulaire qui ont tout le contenu nécessaire dans leur langue, un peu comme... les Français qui ont aussi tout le contenu nécessaire dans leur langue, et c'est pour ça qu'on est moins bon en anglais que des Néerlandais par exemple, qui n'ont pas forcément des produits culturels traduits dans leur langue, ou en tout cas pas doublés.
D'accord.
Puis il y a aussi la difficulté de la langue.
Hein. Je pense que l'anglais c'est plus facile que le français. Hein.
Surtout parce que nous, voilà, on apprend, comment dire, on a des points communs avec des langues comme l'anglais ou l'espagnol, mais un japonais qui va vouloir apprendre l'anglais. Là, il n'y a aucun rapport entre le japonais et l'anglais, je pense qu'on est d'accord. Et après, pour faire des liens, si on apprend l'anglais et ensuite apprendre le français, je pense que ça va quand même être vachement compliqué. Enfin, pour quelqu'un qui n'a pas un alphabet comme nous, qui n'a pas du tout les mêmes principes, enfin, ça doit être assez drôle quand même.
Après, je pense qu'une fois que tu apprends une langue, c'est plus facile d'en apprendre une deuxième. Enfin, plus
oui, bien sûr,
tu as le
principe, on va dire. Mais au final, il y a quand même... En fait, on doit tellement mélanger les ressemblances, les différences, les points communs, les trucs qui ne vont pas, les... Enfin, bon, le français, quoi. Donc bref. Oui, ça doit pas être facile pour les pays qui ont quand même un fonctionnement au niveau de la langue totalement différent, quoi, comme le Japon.
Ok, donc pour revenir à l'Australie, donc du coup, ouais, ils parlent beaucoup moins bien le français. Donc les élèves, ils font du sport, ils font des associations et tout. Et les cours sont beaucoup plus décontractés. Enfin, je sais pas si... Ouais, c'était pareil pour toi aussi. Hein. Les élèves, vraiment, dans la classe, ils parlent entre eux. Il y en a même qui se levaient, qui allaient poser une question au professeur, qui allaient parler entre eux et tout.
Plus enfin, de vraiment... proximité avec les enseignants.
Ouais,
ou,
en fait,
ou pas, parce que s'ils veulent rien faire, ils font rien.
Ouais, c'est ça. Il y en a qui étaient sur leur téléphone, qu'il y en a d'autres qui faisaient des dessins.
Oui, donc ça peut devenir du relâchement, quoi.
C'est un état d'esprit, une manière d'enseigner, c'est totalement différent en fait. Enfin,
et ça marche pour vous ou c'est moins bien? Enfin, je sais pas, mais.
Bah, moi j'y suis pas restée longtemps, donc je sais pas pour moi si ça a marché, mais moi je préfère le système français pour ça quand même.
Ouais,
tu
quand
vois.
Même.
Parce que je trouve que c'est vraiment trop relâchement, tu vois là. Ouais.
On peut trop facilement partir dans une voie de.
Si tu veux rien faire, le prof te dira rien. Si tu fais du dessin toute la journée, que t'apprends rien, bah tant pis pour toi, quoi. C'est vraiment l'élève qui doit avoir envie d'apprendre et qui doit aller chercher la connaissance, quoi.
Le problème, c'est à partir de quel âge on offre aux élèves cette possibilité de choix, d'autonomie. Si on la donne trop tôt, c'est compliqué pour, je pense, pour le jeune de se dire, bah là, faut que je me rende compte que j'ai des devoirs à faire, que j'ai ça à apprendre, etc.
Ouais.
Et c'est une éducation au final.
Puis après, avoir un 4, je pense que ça aide pas mal quand même dans les études. Enfin...
Oui, après, les deux systèmes d'éducation ont leurs avantages et leurs inconvénients.
C'est ça.
On va dire que...
Ça doit développer des capacités.
Ça dépend de l'enfant aussi.
Ils sont certainement moins persécutés en Australie que nous, par exemple, avec
un
système
En fait,
français.
Le problème, c'est qu'un système à la française qu'on retrouve... Alors, je vais pas dire de conneries, on va rester sur le système à la française. C'est un système qui permet de bien encadrer les gens... Et de donc les tenir si on veut. C'est un peu, excusez-moi de la comparaison, un système un peu carcéral. Oui. Alors c'est pas mal sur certains points. Hein. Ça permet de donner une certaine rigueur aux gens, que les gens se rappellent qu'ils sont dans un système, comment dire, on les juge quand même. Il faut. Mais le système à l'anglaise, on laisse beaucoup plus donc de liberté à l'élève. Mais le problème, c'est que quand on donne des libertés aux gens. Pour qu'ils puissent pleinement les utiliser, il faut aussi leur rappeler que, quelque part, c'est pas pour rien, en fait, qu'on leur donne ces libertés. C'est pour qu'ils puissent pleinement s'exprimer, trouver leur voie, faire ce qu'ils veulent faire.
Qu'ils en aient conscience, tout simplement, en fait. Enfin, qu'ils en aient conscience de cette liberté qu'elle leur est accordée.
C'est ça. Et en fait, quelqu'un qui veut faire des choses, vraiment, elle a besoin de liberté. Mais le problème, c'est que ceux qui ne veulent rien faire, ben, ils ne font rien. Et pour qu'un système comme ça fonctionne, il faut rappeler que chaque citoyen dans un pays a une utilité, qu'ils ont des devoirs, surtout dans une démocratie où chaque personne a le pouvoir de donner un vote et donc de faire entendre sa voix. Et des systèmes comme ça, il faut rappeler en fait aux gens qu'ils ont un pouvoir et donc c'est important de se cultiver. Voilà, c'est tout.
Oui. Et je pense que bah, en
donc
fonction
si
des gens,
je résume un petit peu ton idée, pour pouvoir profiter pleinement de ses libertés, c'est bien d'avoir un cadre qui les restreint à un moment donné pour pouvoir mieux en profiter.
En fait, il faudrait faire un mélange de français et d'australien quoi, pour le système.
Alors moi, j'étais pas vraiment parti sur ça. Alors moi, j'aime bien le système anglo-saxon, en fait, leur manière de faire. Mais on devrait plus les éduquer à comprendre en fait, pourquoi c'est important de savoir et ensuite les lâcher dans le grand bain plutôt que soit simplement leur donner de la liberté, soit simplement les incarcérer. Le but, c'est vraiment de donner conscience aux gens qu'ils ont une chance incroyable de faire des études, que la connaissance, ça permet de connaître le monde, ça leur permet de faire des choix qui sont importants, des choix qui... Dans une démocratie, on a vraiment la possibilité de changer les choses. Et le danger d'un pouvoir en place, c'est la liberté des gens de faire un choix.
Ouais,
c'est vrai. Et cette liberté, au final, si les gens ne le savent pas,
c'est
ça.
Les gens ne se rendent même pas compte dans une démocratie qu'ils ont le pouvoir de faire changer les choses, mais réellement. C'est-à-dire que si tout le monde s'unissait, on pourrait vraiment faire bouger les choses.
Oui, bien sûr. Mais ça marche partout au final. C'est pas que dans la politique, je pense.
Mais dans une démocratie, c'est vraiment
possible. C'est là le.
Après, je pense que c'est dur pour un enfant de 13 ou de 12 ans de comprendre ça.
Bien sûr.
Je pense que pour eux, c'est dur de leur dire il faut que vous appreniez à l'école parce que dans 15 ans, vous devrez changer les choses.
Ils vont comprendre. Il suffit de leur faire confiance. Ouais. Il suffit de leur faire confiance et de leur dire on vous laisse tout ce vous faites ce que vous voulez mais apprenez.
Pour moi cette phrase-là elle est pas magique tu vois mais ça peut marcher je pense.
En général quand on fait confiance à quelqu'un il a tendance à aller vers à essayer de faire en sorte de comment dire correspondre à la confiance qu'on lui donne et inversement quand on n'a pas confiance en quelqu'un
ça décourage quoi ça.
Ça décourage bien sûr et c'est important.
Après je pense que ça dépend de chacun aussi. Je pense qu'il y en a qui seront mieux avec le système français.
C'est le problème c'est qu'on ne peut pas avoir un système pareil à parler quoi. Forcément ça peut pas marcher pour tout le monde.
Ok bah super bah je vous propose de faire une courte pause et on se revoit dans tout à l'heure.
Et on reprend la deuxième partie de l'émission juste après. Nobody knows you better than me. Better than the lace you wear. Every single detail scintillate. Every curl inside your head. And I'm pulling in, falling into the light. Anything you want to do. You and me intertwined. Oh, 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 oh. King of shadow. Everywhere you turn, I'm chasing you. Tell you where to go, I follow. Everywhere you run, I'm stuck on you.
Rebonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. Et avant de repartir sur l'Australie, Ronan avait quelque chose à nous dire sur le système éducatif français.
Oui, donc le système éducatif français, je suis dans mes pensées, donc j'ai en train de réfléchir à ce que je vais dire. Oui, donc c'était pour rebondir sur la comparaison entre le système éducatif anglo-saxon qu'on peut retrouver donc en Australie et le système qu'on trouve plutôt en France, qui est un système qui, c'est mon opinion, hein, est plutôt à très encadrant envers les jeunes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense un système plutôt carcéral qui a tendance à rabaisser l'enfant et avoir ce qu'on appelle une hiérarchie verticale. C'est en gros, il y a le professeur qui éduque l'enfant et l'élève
qui a la science.
Ouais, voilà, c'est
donc le professeur qui a la science, qui a toute autorité, qui est pleinement en pouvoir de te dire tais-toi, me regarde pas dans les yeux, etc.
Qui est l'autorité tout simplement en fait.
C'est ça. C'est un système qui bien sûr est efficace pour tout ce qui est éducation. Si je ne me trompe pas, c'est pour un système vertical, c'est pas mal parce que
c'est bien pour les jeunes en difficulté
qui ont besoin de.
Moi, je pense qu'à l'inverse, c'est bien pour les jeunes qui sont très bons à l'école, qui n'ont pas de problème avec fait d'avoir une autorité et qui du coup, ça leur pose pas de problème
ouais.
en fait.
Ouais.
Mais c'est moins bien pour les jeunes qui ont des problèmes parce que justement, ils sont contre l'autorité en fait.
Oui, les gens qui ne supportent pas qui vont aller contre l'autorité parce qu'ils supportent pas de recevoir des ordres ou de recevoir.
Je pense qu'un système vertical pour des élèves qui supportent pas l'autorité, ça va faire pire que mieux, quoi. Enfin,
après, faut nuancer quand même, on peut avoir un système hiérarchique, mais pas autoritaire.
Ouais.
Et c'est ce qu'on appelle l'éducation alternative, la pédagogie alternative, qu'on constate de nos jours. Donc, c'est-à-dire que, certes, il y a un enseignant qui, hiérarchiquement, est supérieur à l'élève, mais il va pas chercher à le rabaisser ou à lui montrer lui qu'il a la science et que lui ne sait pas.
Oui, appelle ça la hiérarchie horizontale.
Pas forcément, non, c'est ce que je dis, ça peut rester vertical, mais assez ouvert quand même.
Et je sais pas si vous, c'est pareil, mais nous, enfin moi dans mon lycée, on adore les profs qui sont hyper sympas avec nous, et les cours sont beaucoup mieux avec ces profs-là qu'avec les profs qui crient tout le temps sur nous. Et les profs qui crient sur nous, tout le monde parle, et c'est un peu
bon
bazar.
Un bon prof, c'est un prof qui est capable d'être, de pas être trop autoritaire, dans le sens où il est capable de faire cours sans avoir besoin d'exercer trop d'autorité.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est des profs sympas, mais qui ont de l'autorité, mais qui ne le montrent pas. Quoi.
Enfin, passer d'autorité, ça ne marche pas non plus.
Mais ouais, c'est ça, il faut un juste milieu, quoi, je pense.
Voilà. Du coup, tu disais... Ce sont des jeunes adultes, en fait, qui arrivent au lycée. À partir de 16 ans, on commence à avoir la capacité, une capacité de réflexion quand même beaucoup plus poussée que les années précédentes, où un cadre fixe est quand même assez... qui est pas mal au final, un cadre fixe, ça permet de pas trop réfléchir, de se dire ok, j'ai juste à me tenir.
Est-ce que c'est le but de l'école de pas trop réfléchir?
Non, justement.
Moi, je suis pas sûre.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune, avoir un cadre où on est bien, on sait quoi faire, on sait comment réagir par rapport aux gens, c'est pas trop mal. Mais il y a un âge, il faut quand même apprendre aux gens
à penser.
À penser, bien évidemment.
À réfléchir par eux-mêmes.
C'est ça. Et puis, si on leur inculque auparavant certaines valeurs comme le fait que la connaissance leur permettra d'être libre, ils le feront sûrement, continuer leurs études.
C'est vrai.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
Et du moins, ils ne verront pas l'école comme un ennemi.
Ouais, voilà.
C'est ça, ça c'est quand même un gros problème.
C'est le problème des relations conflictuelles. Mais en fait, ça marche avec l'école. Les gens ont un conflit avec l'école, avec aussi l'État, avec la police. En fait, c'est un problème de relations. C'est que quand... On se pose et qu'on se dit qu'est-ce que je pense quand je pense école. La plupart des gens, ils vont dire c'est un endroit où on m'oblige à aller.
Je reste assis pendant 8 heures par jour.
J'écoute ce que dit le prof, j'écris ce qu'il dit. Et puis
finalement, c'est ça. Hein, quand
on fait des choses qui ne m'intéressent pas, on m'engueule une fois que je fais un petit écart. Forcément, ça peut pas fonctionner parce que c'est comme ça avec tout. C'est que pour aimer quelque chose, il faut avoir des pensées positives quand on y pense. C'est que quand on a des pensées négatives, quand on pense à quelque chose, on a une comment on pourrait dire ça, une barrière d'entrée dans l'intérêt en fait qu'on comporte à la chose. Par exemple, une tâche qu'on n'a pas envie de faire, on a une barrière d'entrée qui est très haute si on veut faire une image. Et la barrière de sortie qui est très faible, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à commencer cette action.
Mais dès qu'on
veut, on va facilement pouvoir en sortir. Et inversement, quelque chose qu'on aime, on va facilement pouvoir y rentrer et difficilement pouvoir arrêter. Donc si on fait en sorte que les gens apprécie apprendre et aime l'école, il y aura quand même de grandes chances que les gens y aillent de bon cœur et que ça se passe bien.
Premier abord, donc dès la maternelle est le plus déterminant, parce que c'est là où l'enfant va se positionner par rapport à l'école.
Ouais. Ça, c'est le problème, c'est que après, finalement, l'école évolue avec l'âge. Après, je pense que tous les ans, ça recommence un peu.
Hein.
L'école
il y en a pas mal qui, en primaire, adorent aller à l'école et qui, au lycée,
c'est ça. Tout ça donc... L'école, elle reste quand même assez différente entre la maternelle, la primaire, ouais. Le collège. Et c'est pour ça que ça évolue quand même bien, je trouve, que l'enchaînement, bon, même si la primaire est relativement longue, que la primaire, l'enchaînement primaire, collège, lycée évolue bien, je trouve, avec aussi l'évolution du jeune. Enfin, je veux dire... comment dire, le fait que le jeune grandit et qu'il devient adulte, etc.
Et la structure n'est pas la même en fonction voilà. De quel
âge. Et c'est important qu'on change d'environnement et qu'on change de façon un peu de faire, etc. Mais le problème, c'est que forcément, chaque jeune est différent. Il n'y en a aucun qui grandit en même temps que l'autre. Et que forcément, un prof ne peut pas faire du cas par cas dans une classe de 25 ou même de 30 en disant... Enfin, il doit faire un cours à 30 élèves. Il ne peut pas dire « je m'adapte en fonction de chaque... »
Dans l'idéal, il faudrait un prof par élève et le prof s'adapte à l'élève et fait un cours en fonction de l'élève. Mais c'est impossible, on ne peut pas faire un prof
même
par élève.
Ça n'apprend pas la vie en société.
Oui, voilà, c'est ça.
Puis... Le but, ce n'est pas de faire du cas par cas. On va dire que si on est en fait dans un système très rigide, c'est une problématique qui revient parce qu'on dit « ouais, mais on applique une méthode, on est rigide sur cette méthode parce que c'est un peu la technique du clou qu'on enfonce pour qu'il rentre dans la planche. C'est-à-dire que c'est un dicton japonais, je crois, ça. C'est s'il y a un clou qui dépasse, on tape dessus plus fort avec un marteau pour qu'il rentre dedans.
Oui.
Alors que dans un système qui est assez rigide, c'est pas grave s'il y a un clou qui dépasse un petit peu.
Bah si, justement, dans un système rigide, c'est grave qu'il y a un clou qui dépasse.
Oui, dans un système rigide, mais dans un système qui est plutôt... comment dire ?
Alors
c'est un sujet qui est vraiment très vaste, l'éducation. Et...
C'est clair. Au final, le problème, c'est que, comme tu dis, on ne peut pas faire du cas par cas, et ce n'est pas forcément l'objectif, parce que bah voilà, l'école, elle est aussi là pour apprendre aux jeunes à vivre, enfin à vivre en communiqué, des gens de leur âge, à respecter voilà, des gens, parce que des gens, on aura toujours quelqu'un qui aura l'autorité sur nous, je veux dire, quand on aura un métier, tout ça. Et ça apprend aussi ça. Et du coup, il faut trouver le juste milieu entre s'adapter à l'élève par rapport à la personne qu'il est et ce qu'il a besoin d'apprendre, et aussi les choses qu'il doit apprendre en société. C'est tout le dilemme de l'école, je pense.
Mmh. En tout cas, c'est vrai que des réformes par rapport à l'école actuelle, ce serait pas tout mal, et c'est quand même du boulot. Hein.
Mais ils en ont fait sur le lycée, là.
Oui, mais bon.
Ouais, okay. C'est vrai, les
c'est exactement ce qu'ils font là au lycée avec les nouvelles réformes.
Ouais,
on est en train de spécialiser beaucoup
ouais.
plus tôt les élèves ah, bon. Et leur proposer
c'est vrai. Plutôt que quelque chose de rigide, justement, quelque chose qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent faire genre S, E, S ou L, bah, ouais, comme tu dis, oui. Après, comment dire, on verra si ça marche, hein, tout simplement, et ça va changer quand même beaucoup, je pense, dans la façon de vivre au lycée, parce que du coup... On n'aura pas les mêmes.
Parce que déjà, l'approche n'est pas la même. Là, on leur propose, on leur laisse le choix de choisir.
Oui.
Que avant, bah, c'était un tronc commun et on leur a imposé.
Mais le problème qu'on peut se poser, c'est en seconde, ils doivent savoir ce qu'ils vont faire après le bac pour choisir les bonnes trucs, enfin les bonnes options, si je peux le dire, les bonnes. Comment on appelle ça, les bonnes spécialités.
Ouais.
Parce que s'ils se retrouvent en terminale avec pas les bonnes et qu'on refuse forcément parce que c'est pas forcément bien adapté, parce que la réforme, voilà, c'est compliqué à mettre en place et qu'on lui dit, bah t'as pas fait ça, du coup tu peux pas rentrer là.
Ouais.
Et on lui a demandé de choisir en seconde, c'est quand même jeune.
Et puis le problème, c'est que les écoles prennent en fonction de ce qu'on a fait. Alors moi, je sais, ma sœur, elle va rentrer en seconde cette année. On lui a dit, appelle les écoles, parce que demande aux écoles ce qu'il faut prendre comme option, parce que si tu n'as pas les bonnes options, tu ne rentreras pas dans l'école où tu veux rentrer. Quoi.
Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire refaire une première et une terminale pour avoir les bonnes spécialités?
Non,
ou,
ça veut dire
avoir une autre école
ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit des matières, mais on ne les choisit pas vraiment, en fait. Parce qu'on choisit les matières en fonction de ce qu'il y a.
Mais
après,
au moins, on s'adapte en fonction de ce qu'on veut, parce qu'il y a beaucoup, quand même beaucoup de personnes qui peuvent avoir besoin de matières scientifiques, mais aussi de l'économie, ou qui
n'y a
qu'une seule matière scientifique qu'ils aiment bien, mais du coup, ils continuent, mais ils ont besoin d'autre chose à côté. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont témoigné en me disant, moi, ça m'arrange à mort, la réforme,
c'est par exemple,
parce qu'il y a plein de trucs
commerce,
qui m'allaient pas, et du coup,
y a
je fais ce que je veux.
Il y a maths et économie, alors que maintenant, si on fait école de commerce, soit on fait S, mais on fait que des maths,
voilà,
soit on fait ES, mais on fait que de l'économie, et les maths en ES, c'est pas hyper dur, quoi. Donc, c'est en fait, c'est pas très compliqué, quand même. Donc du coup, en fait, on peut pas vraiment être bon partout quoi, pour rentrer dans ces écoles.
Après, là, le problème de la réforme qui va être mise, c'est que quelqu'un qui choisit les maths fera des maths de S. Et soit on fait pas de maths, soit on fait des maths d'élite, enfin de S. Et du coup, bah, y a pas du tout milieu, quoi.
Ouais. Moi, je me souviens, j'ai fait S. J'étais pas très très bon en maths. Ça m'a fallu quand même pas mal de temps pour retrouver un niveau à peu près correct. Et c'est vrai que c'est pas évident.
Ouais.
Je crois que les autres sections, je me souviens plus, genre STMG et tout, ils font à peu près les mêmes maths, mais sans aller dans des... Comment
dans
dire, ils font la base
voilà.
Et on leur en demande moins. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas évident et que des réformes seraient appropriées, mais pour ce qui est des réformes récentes, il y a que le temps qui dira si ça a fonctionné ou pas. En fait.
Exactement.
Très bien. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était l'Actualiteam, l'émission de débat des lycéens sur l'actualité. C'était Jeanne et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.